Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table aujourd'hui, Christophe Buron, Didier Cros et Fred Vernat. Bonjour messieurs.
Salut Manu.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Au menu de ce nouvel épisode, un sujet qui fait beaucoup parler depuis samedi soir et ce match Toulouse-ASM. L'ASM, clairement, est-elle mal arbitrée ? C'est la question qu'on va se poser dans ce podcast suite à la déclaration de Christophe Furios, l'entraîneur en chef de l'ASM après la défaite de son équipe samedi du côté de Toulouse. Défaite 31-10. Nous nous intéresserons également au prochain match de l'ASM. Ce sera samedi à 21h05 au Michelin face au Racing 92. Défaite interdite pour les Auvergnats. Et enfin, nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons sans plus attendre au thème principal de ce podcast avec un petit tour de table rapide. Messieurs, l'ASM est-elle mal arbitrée, pour reprendre les propos de Christophe Furios et ce qu'a déclaré le technicien auvergnat samedi à Toulouse. Fred ?
Je dirais oui sur les deux derniers matchs.
Christophe ?
En tout cas, il y a des coups de sifflet qui ont fâché.
Elle n'est pas plus mal arbitrée que les autres équipes du top 14.
Bon, eh ben on va développer tout ça. On va recontextualiser. Hein. Donc, Christophe Furios, après le match samedi, après cette défaite à Toulouse, a déclaré donc, en conférence de presse, concernant l'arbitrage, depuis le début de la saison, on est mal arbitré. La semaine dernière, donc, il fait référence à la défaite contre Toulon au Michelin, c'était une blague. Ce soir encore, je ne suis pas loin de le penser. On va dire que je chiale, mais je ne chiale pas, c'est la vérité. On est mal arbitré, a déclaré l'entraîneur de l'ASM. Il fait référence notamment à deux grosses situations sur le match. Il y a cette action de la 50e minute où Irim Fall est à la course avec Thomas Ramos et déstabilisé devant l'en-but, devant la ligne d'en-but. Et l'arbitre donne un renvoi d'en-but et ne donne pas de pénalité. Après, parce que la précision est importante, avoir eu recours à la vidéo. Et il y a des mêlées en fin de match également où Christophe Furios n'était pas d'accord avec les décisions prises par l'arbitre, sur Ramos. Christophe, tu étais au match. C'est la première fois depuis qu'il est entraîneur de l'ASM que Christophe Furios désingue l'arbitrage comme il l'a fait là.
Oui, c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs, que ça suffisait et qu'il était temps qu'il élève la voix. Bon, il a choisi ce match-là parce que c'est probablement le plus flagrant. Fred parlait des deux derniers matchs. C'est vrai qu'avant, bon, j'ai pas eu souvenir de décisions scandaleuses en défaveur de l'ASM. Toulon, il y aurait à dire, mais bon, je crois que... Mais c'est vrai qu'il y a le niveau général de l'arbitrage, qu'on en parlera peut-être plus tard, qui a peut-être baissé. Mais sur ce match-là, oui, alors il est sorti un peu de ses gonds et il attendait que ça, une question qui puisse lui permettre de s'engouffrer dans la faille. Donc, tu as cité deux faits de ce match. Donc, il y a le croc en jambe, ou le croche-pied comme on veut, là, de Ramos sur Fall. Alors, ce qui prête à débat aujourd'hui, enfin depuis samedi soir, c'est que après image, après vidéo, et l'arbitre vidéo et le donc Monsieur Ramos sur le terrain ont admis qu'il y avait un contact. Après, l'arbitre dit oui, mais c'est pas intentionnel. L'arbitre de vidéo dit en effet, il est pas sorti de sa trajectoire de course, donc pas de faute. Là, il faut être. On sait que le rugby est un sport complexe, mais il faudrait aller loin dans les règles et puis il faudrait peut-être. Aller voir des gens qui sont très, très pointus sur la question. Peut-être qu'on aura des réponses d'ailleurs cette semaine, on en reparlera aussi. Sur le paramètre de l'intentionnalité dans une faute. J'ai jamais entendu dire que l'intentionnalité était prise en compte. Quoi. Je veux dire, il y a eu des cartons rouges même. Je reprendrai que celui d'hier soir, Teddy Thomas, qui tend le bras parce qu'il est pris un peu à contre-pied et qui cravate le Garec, ça a été rouge direct et personne n'a rien dit. Quoi. C'était pas un geste intentionnel. Ouais. Mais il y a faute. Donc le débat est là. Pour finir sur les mêlées, oui, t'as raison, mais là... le problème, c'est que depuis le début de saison, on se rime que Toulouse est la meilleure mêlée de France et tout. Donc, quand l'arbitre a un doute, il doit être peut-être, il se dit inconsciemment, ça peut pas être Toulouse qui se met à la faute et tout. Et c'est vrai que pas avoir vu les images, mais bon, c'est tellement compliqué à arbitrer la mêlée que, en effet, le droitier de Toulouse sur la première, il est vraiment en travers. Mais bon.
Ce qu'a mis Sébastien Bézé dans une colère.
Oui, même sur la mêlée.
Sur l'action, mais on voyait bien que les Clermontois se sont sentis lésés, surtout sur ce croc en jambe quand même assez flagrant de Ramos. Tout le monde a vu le contact, et il y a un contact, effectivement. Ce degré d'intentionnalité, j'ai du mal à le
mesurer.
J'ai regardé pour essayer de comprendre la décision prise par les arbitres, encore une fois, hein, parce que M. Ramos n'était pas le seul décisionnaire à ce moment du match. J'ai retrouvé donc dans les règles, sur la partie jeu déloyal obstruction, donc la règle 9.4, qui stipule un joueur ne doit pas intentionnellement empêcher un adversaire d'avoir la possibilité de jouer le ballon autrement qu'en luttant pour la possession. Il n'y a que ce point, effectivement, où le terme « intention » ressort. Donc, à mon avis,
Quand on est sur... Parce que là on parle d'un essai, pas essai, quand même. Hein, je veux dire, on est sur une zone de marque, sur un essai évident qui doit être marqué par les Clermontois. Tu dois te tenir compte de ça aussi dans la décision. Ce qui est curieux, c'est que je trouve déjà... Alors, le recours à la vidéo, on en a à tous les matchs. Parfois, ça dure 15 minutes. Là, ça a été d'une rapidité, j'ai eu l'impression, étonnante. Il y a d'autres choses aussi qui sont assez symptomatiques, je trouve, sur l'action. La petite blague de Thomas Ramos à Sébastien Bézi, puisque auprès de l'arbitre, c'est Sébastien Bézi qui se plaint de la décision qui est en passe d'être prise, et Thomas Ramos lui dit « Mais tais-toi, t'es pas capitaine », sur le ton, évidemment, de la boutade, sauf que c'est quand même symptomatique de quelque chose, et on voit Simonet qui arrive bien plus tard dans cette action. C'est le rôle d'un capitaine aussi d'influer, mais en tout cas de se montrer peut-être à ce moment-là.
Je pense à l'intentionnalité. C'est comme un plaquage à la tête. Il ne peut pas être intentionnel, mais on reproche au joueur qu'il va prendre un carton rouge son manque de maîtrise. Là, est-ce que Thomas Ramos n'a pas été en manque de maîtrise par rapport à la course de Fall et l'a percuté accidentellement? Ça peut être aussi considéré comme un défaut de maîtrise.
Enfin, on peut pas comparer, c'est une action brutale, une brutalité manifeste, comme tu disais tout à l'heure, de la cravate.
Non, mais je parle de la forme.
Entre la faute qui n'a pas été sifflée contre Ramos, moi, ce que je relève, c'est que les deux arbitres de terrain et vidéo étaient d'accord sur l'interprétation et sur la sanction à ne pas appliquer. Ils n'ont pas... les deux peuvent se tromper, hein. Une majorité peut se tromper. En l'occurrence, les deux avaient exactement la même vision, la même interprétation, et ont été d'accord pour ne pas prendre de sanctions. Donc à partir de là, on peut quand même, soit en doute de la
probité.
De la probité, et alors c'est la porte ouverte à tout. On peut douter de leurs compétences, ça c'est un autre problème.
On en parlera, la compétence.
Non, mais bon, en l'occurrence, les deux ont été clairs et nets. Donc à partir de là, bon, on peut après discuter de n'importe quelle décision de l'arbitre. La comparaison avec le rouge d'hier de Teddy Thomas n'est pas la même, puisque là, il s'agissait d'une action d'un joueur sur un autre joueur qui était en position de défense. Là, on parlait d'un duel entre deux joueurs qui étaient à la course. Et on sait forcément que quand deux joueurs sont à la course à pleine vitesse, le moindre contact se traduit par une chute. Donc, est-ce qu'il y a volonté ou pas de faire chuter l'adversaire? Ça, c'est autre chose. L'intentionnalité, elle est très fine. Et c'est en ça que le rugby est extrêmement difficile à arbitrer, parce qu'il faut interpréter. Et on sait que les joueurs sont suffisamment intelligents pour faire croire qu'ils n'ont pas fait faute aussi. Hein, mais c'est extrêmement difficile de juger l'intentionnalité ou pas d'une action, d'un duel à pleine vitesse, où on sait, effectivement, je le répète, que le moindre contact peut entraîner une chute, forcément.
C'est ce que dit d'ailleurs M. Ramos dans son échange avec M. Gauzin, ce qui était l'arbitre vidéo, samedi soir. Il insiste sur un point, je ne vois pas de changement d'axe de course du 10 noir, donc de Thomas Ramos, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe. Pour moi, il n'y a pas de jeu déloyal volontaire. Donc je pense effectivement que le problème, entre guillemets, et l'explication de cette décision se situe au niveau de l'intentionnalité. Après, c'est la question que tu poses aussi dans ton article ce matin. Est-ce qu'une faute accidentelle doit-elle être sanctionnée?
Voilà. Là, on attend des réponses, peut-être en milieu de semaine. On verra dans la semaine si des fois cette action est jugée au plus haut niveau de l'arbitrage et des autorités.
Après, pour élargir un peu le débat, la question, c'est au-delà de cette décision qui est prise, est-ce que le nom de l'équipe concernée influe là-dedans?
Au-delà du nom, je relève simplement que les équipes, les entraîneurs qui contestent des décisions d'arbitre, ce sont toujours des équipes ou des entraîneurs qui ont perdu. Une équipe qui gagne ne conteste jamais des décisions arbitrales qui ont été parfois contraires en cours de match. Jamais. On n'a jamais vu un arbitre, un entraîneur, un joueur ou un dirigeant critiquer un arbitre après une victoire. ça se traduit toujours après une défaite ou des défaites.
J'ai un peu de mal à croire à cette théorie, effectivement. Peut-être que un contexte à domicile peut éventuellement influer de manière indirecte sur l'état d'esprit d'un arbitre, et encore, mais j'ai du mal à imaginer que systématiquement le gros soit toujours avantagé.
Oui, pour reprendre les propos de Christophe Furios, il dit l'an dernier on a fini 10e du top 14, on arbitrait comme un 10e.
Mais de toute façon, dans ce sport.
On peut dire aussi, là, en l'occurrence, je ne veux pas contrer Christophe Furios, mais lors du match à Montpellier, il y a une décision qui est un peu compliquée à un moment sur le contact entre Thibault Lannen et le deuxième ligne de Montpellier, dont j'ai oublié le nom. Une action où il ouvre le front de Thibault Lannen. L'arbitre dit non, il n'y a pas faute, pas de carton, rien. On peut en discuter. En l'occurrence, Montpellier était avant-dernier, donc on ne peut pas dire que c'est parce que c'était Clermont en face et qu'il voulait sanctionner Clermont. Montpellier était encore plus mal classé que Clermont à ce moment-là, donc ce n'est pas uniquement une question
de classement. Non, mais là, c'est pas, là tu parles de la lecture du classement à l'instant T, mais quand Urios dit qu'il parle dixième, en fait, c'est un club qui n'est plus dominant depuis tellement longtemps, mais je pense que ça a été l'inverse, on l'a vécu. Quand Clermont était au sommet, Clermont a bénéficié de décisions arbitrales en leur faveur qui prêtaient à question. Quand on aurait pu faire des débats en disant est-ce que l'ASM n'a pas été avantagé. On ne va pas reparler du titre de 2010 hein, qui a tenu à qui aurait pu tenir à 2-3 décisions importantes, que ce soit le match de barrage ici contre le Racing, l'essai de Zirakashvili à.
Il y a des contre-exemples aussi à ce que tu dis.
Oui, mais bon.
2016, Rennes, l'ASM est, on peut dire, au sommet aussi à ce moment-là.
Hein. Oui, il y a le Racing qui est pas loin. Mais donc, bon, pour revenir à la question, l'ASM est-elle mal arbitrée ? Ce qui est sûr, c'est que j'ai revu le match, il y a énormément de fautes, il y a beaucoup de fautes d'arbitrage. Oui. Il y a aussi il aurait pu ne pas arrêter Méafou qui allait à l'essai, oui, parce que c'est ce Sobhacula qui pousse le ballon. Oui. C'est pas un en avant de Méafou.
Voilà, ce qui aurait pu donner une occasion d'essai pour.
Je vois pas qui c'est qui allait arrêter le Golgoth toulousain à ce moment-là. Mais il y a eu des fautes en pagaille. Nos collègues de Canal hier ont montré l'image, ce qui m'avait échappé en direct, bien sûr. De Méafou qui est allongé au sol, qui tape sur le bras de Bézi, qui va écarter le ballon, il siffle en avant de Bézi et donne mêlée à Toulouse. Ouais. Et c'est dans les 22 mètres toulousains. C'était faute contre Méafou, c'est clair et net. Comme hier soir, la faute quand Corrier est sur le point d'aplatir, Dimov.
Oui, lors de Racing
et
La Rochelle.
Qu'il le plaque au niveau de l'embute, et il conteste le ballon, il récupère le ballon en étant au sol. C'est interdit. C'était carton jaune et essai de pénalité.
Mais on voit ce que tu dis, parce que les Rochelais, effectivement, étaient remontés contre l'arbitre.
Ils avaient de quoi. Pour le coup, ils avaient de quoi aussi.
Il y a beaucoup, chaque week-end, il y a des décisions qui sont contestées. Se pose la question, tu l'évoquais tout à l'heure, du niveau de l'arbitrage français aujourd'hui. Il y a eu toute une génération qui est partie, les M. Gahuzère, M. Garcès, un peu plus longtemps, il y a eu M. Poit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive, de jeunes arbitres. Il faut peut-être aussi leur laisser le temps.
C'est ce que dit exactement celui qui est probablement... Enfin, il fait partie des deux entraîneurs, d'abord les plus reconnus, c'est Tual Trenini avec Rénal, Mathieu Rénal.
Les deux arbitres reconnus.
Les deux arbitres reconnus français. Trenini, dans une interview qu'il accorde à Actu Rugby, il dit clairement que le niveau, il est peut-être plus tout à fait le même avec les départs qui n'étaient pas prévus de Pascal Gauzer, tu l'as dit, et d'Alexandre Ruiz, qui fait qu'il y a des jeunes qui sont montés peut-être un peu plus vite et que le niveau, il le dit clairement. Et il a cette phrase en disant « l'arbitrage doit s'ouvrir et accepter la critique ». Ça aussi, c'est un peu nouveau de la part d'un arbitre.
Il faut aussi que l'arbitrage, ils sont scrutés image par image, comme ils ne l'étaient pas ces dernières années. Quoi. Donc chaque rencontre est passée au scanner, et avec des angles de vue qui ont été multipliés par 2 ou par 3, enfin j'exagère un petit peu, mais avec des angles de vue qui ont été multipliés. Donc forcément, les fautes d'arbitrage sont davantage révélées qu'il y a quelques années, grâce à la technologie. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu moins là, avant avec les arbitres dont vous parlez, mais sauf qu'on les voyait pas, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas les ralentis, parce qu'il y avait sûrement moins d'émissions de télé qui disséquaient les rencontres point par point, enfin minute par minute, seconde par image, seconde par seconde, image par image. Donc forcément, il y a des fautes qui passent à travers et qui sont révélées après coup, évidemment.
Pour moi, il y a un problème avec l'utilisation et le manque de cohérence par rapport à la vidéo. On l'a vu sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, et ça dépasse largement le cadre de l'arbitrage français, hein, entre les quarts, la demi et la finale. L'utilisation, je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu une étude très poussée sur les spécialistes des statistiques et data et compagnie, sur l'utilisation de la vidéo sur ces trois matchs, sur les matchs des quarts, des demi et de la finale de la Coupe du Monde. C'était des écarts énormes, quoi. Enfin, on va pas rappeler le quart de finale France-Afrique du Sud, où la vidéo est quasiment jamais intervenue. Parce que si elle était intervenue, il y aurait eu des fautes qui auraient été sifflées, qui n'ont pas été en direct. Qu'elles ne soient pas sifflées en direct, c'est normal, ça va tellement vite aujourd'hui que les arbitres, et puis c'est des acteurs du sport, enfin du match comme les autres, ils peuvent faire des fautes. Mais la vidéo n'est pas utilisée de manière cohérente, à mon sens.
Il y a un élément à dire aussi sur ce match à Toulouse. Je ne suis pas sûr que, quand bien même l'ASM aurait marqué ce fameux essai par Fall, je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose à l'issue de...
C'est pas le sujet.
À l'issue, là, en compte, non, mais voilà, c'est important de le préciser. En revanche, peut-être que le match, le résultat de Toulon aurait été différent.
Il voilà. y a un autre point aussi. On parlait du niveau de l'arbitrage. Il y a de plus en plus de clubs de top 14, même de Pro D2, qui font appel à des arbitres. Des arbitres qui intègrent les staffs. C'est le cas à Toulon avec M. Poit, M. Garcès qui va rejoindre Pau. L'ASM n'a pas fait ce choix-là.
Non.
Est-ce que ça peut peser la présence d'arbitres dans les staffs? Est-ce que ça peut peser sur les décisions prises pendant les matchs? Je pose la question. Ce sont des équipes, que les équipes qui ont des arbitres.
C'est un milieu de coquin qui est un petit bon avant le match au jeune confrère qu'il a connu quand il était jeune. Et quand le fameux arbitre qui a intégré le club était à son sommet, qui a un petit mot, une petite tape sur l'épaule, oui, est-ce que ça influence le jeune arbitre ou l'arbitre qui arrive? Ça, c'est très très difficile à dire, ça, c'est compliqué, quoi.
Pour revenir à cette déclaration de Christophe Furios, il met aussi la pression forcément sur le prochain arbitre, on ne sait pas encore qui va officier.
D'après un supporter très connu de la région qui est déjà au courant, ça serait Monsieur Nouchi. Alors on verra si l'information se vérifie dans la soirée. Et c'est lui qui était à 2 mètres de l'action Imhoff Kankorié hier soir au Racing en tant qu'arbitre de touche. Donc bon,
voilà. C'est de bonne guerre. Ça, c'est aussi une stratégie de communication.
Complètement.
Il avait envie de la faire, cette sortie.
De mettre la pression et de... voilà, et puis c'est aussi peut-être, pas forcément en l'occurrence, mais c'est aussi une manière d'évacuer le problème de la défaite, d'autres explications concernant la défaite. Quoi. Je veux dire, on met un sujet sur le devant de la scène et ça permet d'évacuer d'autres sujets.
Christophe Furios disait, il faut qu'on soit une équipe qui se fasse davantage respecter. Donc quand il évoquait que avez fini 10e l'an dernier,
c'est exactement ça.
Il faut par contre une équipe plus propre, j'imagine, au niveau de la discipline.
Exactement.
Dominateur sur que soit en mêlée fermée, que soit au niveau des phases au sol, être propre justement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté entre guillemets, pour faciliter le travail de l'arbitre derrière.
J'ai envie de dire plus disciplinée et plus dominante. Quand une équipe est dominante, joue dans l'avancée et en plus ne commet pas de faute trop grossière et tout, et évidemment que sans se mettre l'arbitre dans la poche, au moins l'arbitre a déjà un a priori favorable.
Contre Bayonne, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. Quand tu gagnes 40, ou quand tu mets une pile à l'adversaire, comme ça, il n'y a pas de problème d'arbitrage. Forcément.
Il y en a moins, ou alors s'il y en a, ils sont pas, on n'en parle pas.
Si vous êtes coach du Racing, là, est-ce que vous, dans la préparation du match, dans les déclarations, sur les conférences de presse, après la déclaration de Christophe Furios, est-ce que vous mettez une petite pièce aussi sur l'arbitrage ou pas?
De toute façon, quelqu'un m'a rapporté ce que je n'ai pas vu hier soir, l'avant-match de La Rochelle-Racing, de voir le talonneur, enfin le capitaine surtout de La Rochelle, qui va indiquer à l'arbitre avant le toss qu'ils ont remarqué que les droitiers du Racing avaient poussé en travers, que curieusement les premières mêlées ont été sanctionnées. Il y a bien une influence quelque part. C'est un jeu un peu de voilà, on va tenter d'avancer des pions par rapport à l'arbitrage. On va le mettre un peu en alerte sur tel ou tel secteur du jeu. Est-ce que le Racing va faire quelque chose de ce style avant le match à l'ASM? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est possible à dire.
On verra. En tout cas, on scrutera l'arbitrage samedi soir. Donc pour cette rencontre ASM contre le Racing 92, et la transition est toute trouvée puisqu'on va enchaîner avec ce prochain rendez-vous pour l'ASM. Christophe Furios n'y est pas allé par quatre chemins dans nos colonnes ce matin. Pour lui, le rendez-vous est capital.
Oh bah ça, je pense que tout le monde pouvait le dire, hein, que l'urgence était de gagner, parce que sinon, si ça perd là, en effet, c'est l'assurance d'être dans le ventre mou une grande partie de l'hiver, je pense. Donc évidemment que la victoire, elle est plus qu'impérative.
La pression est énorme quand même là, parce qu'il y a eu.
Il y a la pression, oui, tout à fait.
Elle était déjà là, le postulat de départ dans le tableau de marche de l'ASM, la feuille de route qui avait été dressée par Christophe Furios, c'était de rester invaincu à domicile. Et il fallait engranger des victoires, je dirais, un peu bonus à l'extérieur. Cette victoire à l'extérieur, elle est venue à Montpellier, sauf que derrière, il y a la défaite à domicile contre Toulon qui n'était évidemment pas prévue. Donc elle remet sous pression cette équipe de l'ASM. Et évidemment, quand on voit en plus ce classement du top 14 qui est d'une densité folle, hein, on sent bien que la moindre victoire et la moindre défaite fait basculer d'un côté ou de l'autre. Donc la victoire, elle est impérative, effectivement.
Le Racing, donc, qui est leader, hein, après sa victoire bonifiée face à La Rochelle, c'est pas forcément l'adversaire rêvé non plus pour repartir et réenclencher. On rappelle l'ASM qui reste sur deux défaites pour réenclencher une dynamique positive.
Non, mais en l'occurrence, il n'y a pas de, on a vu avec Toulon, il n'y a pas d'adversaire facile pour se relancer. Hein, de toute façon, clairement, à payer pour voir. Après, bon, il y a la perspective de la Coupe d'Europe qui arrive aussi. Donc, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que, bon, mais en tout état de cause, oui, clairement, dos au mur, le mot est un peu fort à ce moment-là de la saison. Mais ils ont grillé un joker, un deuxième, ça serait très 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 dommageable. Oui.
Il y a 4 points pour l'instant entre l'ASM 8e et Toulouse 6e, 23 points pour Toulouse, 19 pour l'ASM. En cas de faux pas contre le Racing, le top 6 pourrait s'éloigner.
Ce qui est difficile à mesurer à 5 ou 6 jours du match, c'est l'état d'esprit avec lequel va venir le Racing. Alors en effet, on sait comment ça marche, hein. Le rugby est spécialiste, hein. Des fois, entre les matchs à domicile, à l'extérieur, selon le contexte, selon la place du match dans le calendrier. Là, c'est à une semaine de l'ouverture de la Champions Cup, qui est forcément une des priorités du Racing, alors que le challenge n'est peut-être pas pour l'ASM. Enfin, de toute façon, l'ASM, même s'ils avaient fait une priorité le challenge, la priorité maintenant, c'est de gagner en top 14. Donc, j'aurais la faiblesse de penser que le Racing ne va pas venir avec le couteau entre les dents et faire la guerre ici.
Et après avoir battu La Rochelle aussi.
Oui, et puis vu leur position.
Et le stade français.
Oui.
Donc voilà quoi. Mais par contre, si une faille s'ouvre, si l'ASM est un peu moins bien, si elle fait la même première mi-temps que Contoulon, ils ne vont pas se gêner pour essayer de gagner. Ça, c'est une certitude.
Parfait.
Voilà.
C'est d'autant plus important que c'est le dernier match avant la Coupe d'Europe et que le dernier match de la saison, Clermont se déplace à Pau, où, juste avant Noël, ça risque d'être un peu. Ça sera forcément là aussi compliqué. Quoi.
Eh ben merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Avant de nous quitter, on va basculer sur les tops et les flops après ce week-end. On va commencer avec toi Didier, top ou flop ?
Eh bien ça sera un flop pour Montpellier qui, après avoir tout changé, tout bouleversé, tout mis à la poubelle, et on a vu que le choc psychologique n'avait pas fonctionné parce qu'ils se sont ramassés, ils ont essuyé une 7e défaite d'affilée à domicile, là, en l'occurrence contre Oyonnax, avec qui ils sont en concurrence directe pour le maintien. Ils se retrouvent dernier et du top 14 et ils ont une belle gueule de relégable en fin de saison, effectivement.
3 défaites à la maison, ça commence à faire beaucoup.
Oui, c'est clair.
Il y a 9 points d'écart entre Oyonnax et
avec un déplacement la semaine prochaine à Bayonne qui va valoir son pesant de cacahuètes.
Oui, puisque Bayonne est pour l'instant 12e et premier non relégable. Christophe.
Eh bien, mon top, ça va être Damien Penaud, qui bien connu de la maison clermontoise, qui sans faire d'exploit comme non. Il est capable de le faire, mais quand même, bon, 4 essais.
T'en aurais mis un ou deux, peut-être, sur les essais.
Oui, le jour où je vois un genou pour courir. En 3 matchs, bon, je crois qu'il est déjà deuxième meilleur marqueur, ou même meilleur marqueur.
C'est ça, en 2 matchs et demi.
Bon, il a confirmé son statut de serial marqueur d'essai. Et bon, visiblement, l'intégration s'est bien passée. Mais au-delà de son cas à lui, c'est vrai que la ligne d'attaque bordelaise, c'est pas mal. Ça fait bien un peu rêver, oui.
On va terminer avec toi, Fred.
Ouais, mon flop, il concerne l'élite 1 féminine, le premier niveau du rugby français qui a toujours de gros problèmes d'homogénéité. Hein. Je regardais les résultats de la poule de l'ASM Romania ce week-end. Voilà, ça se passe de commentaires. Victoire du Stade Bordelais 64-5. Victoire de l'ASM Romania à domicile 46-0 contre Villeneuve-d'Ascq. Montpellier qui a gagné 44-3. Alors les formules changent. On a toujours un calendrier qui est particulièrement illisible chaque année avec... deux ou trois mois sans compétition, des matchs sans les internationales. Les formules changent, on essaye de resserrer, d'élargir, mais il n'y a jamais la bonne formule et c'est un vrai problème.
Ils n'ont pas changé depuis...
Ça va changer l'année prochaine.
Ça va changer. Ça fait 3 ans que c'est la même formule et ils changent l'année prochaine pour une formule unique à 10 clubs.
Voilà, et je pense
on revient pour eux de resserrer cette élite.
On revient à nouveau, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que c'est pas servir en fait ce championnat que d'avoir des niveaux aussi disparates entre les effectifs.
Sur le papier, le top 10, ça peut être séduisant, mais on peut quand même se poser la question s'il y a vraiment 10 clubs pour lutter à. Parce qu'un top 8, ce serait pas plus cohérent. Bon, après, il y a le problème de nombre de matchs, évidemment. Donc, c'est un sujet compliqué, oui.
Parfait, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, belle semaine à tous. Salut.
Merci, au revoir.
Salut à tous et toutes.